nous allons donc nous
recueillir un instant. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver. Merci de tes bienfaits, de ta présence et bénis ces moments que tu nous aides à avancer dans ta parole et à la connaître de mieux en mieux. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un aspect très important qui touche la prophétie, bien sûr, et qui est un sujet dont on entend régulièrement parler, c'est le sujet de l'antisémitisme. Et pourquoi y a-t-il autant de haine envers les Juifs? Alors, est-ce que vous en connaîtriez vous-même les origines? Ce soir, je vais vous faire parler un petit peu quand même. Et si vous voulez parler, vous pouvez baisser le masque. Hein. Alors, tout le monde va vouloir parler. Alors, comment vous expliqueriez l'origine? Et pour moi, ce que je voudrais dire au travers de ce premier principe, c'est que, en fait, l'antisémitisme me confirme à quel point Israël, les Juifs, c'est un peuple absolument unique, et on y voit la trace de Dieu, même dans les moments difficiles. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles, et je pensais que quelqu'un le soufflerait, mais nous allons aller dans Deutéronome, et nous allons voir quelques passages dans Deutéronome, au sujet des annonces concernant le pays. Et là, nous découvrons bien des annonces difficiles, un petit peu terribles. Hein. Alors, Deutéronome 31. Déjà, le Seigneur annonce au verset 16, « Tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera, se prostituera aux dieux étrangers. Il m'abandonnera, violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » En ce jour-là, ma colère s'enflammera, je les abandonnerai. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux d'affliction. Et dans les maux et les afflictions, nous savons que ce peuple va être dispersé dans plusieurs régions et dans plusieurs, partout, quoi, dans les pays. Déjà, la Bible nous montre que dans la perspective future d'Israël, Il y aura donc une grande diaspora, un malheur qui va arriver sur Israël. Et la Bible dit, voilà, tu seras dispersé parmi les nations, là, tu seras pampé, ton cœur sera agité, et tu seras vraiment angoissé. Le soir, tu diras, puisse le matin être là. Le matin, tu diras, puisse le soir être là. Etc. Donc nous voyons les perspectives de moments très douloureux sur Israël qui viendront progressivement dans les exils. Alors vous savez qu'il y a eu plusieurs exils. Plusieurs fois, Israël a dû partir. Le premier exil, c'était l'Égypte. Après, il y a eu la Samarie avec les Assyriens. Après, Juda avec Babylone. Et puis le grand exil, à partir de 70. Nous l'avons rapidement mentionné dimanche matin, le signe de la destruction du temple sera l'armée qui viendra envahir Israël. Et je n'ai pas eu le temps d'expliquer, ce temps des nations est un temps d'hostilité permanente envers Israël. Alors il y a un déroulement à la fois biblique et dans la Bible et après dans les nations où c'est vraiment systématique. Jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, évidemment, vous savez qu'il y a eu la Shoah. Shoah est un mot hébreu qui veut dire malheur, tout simplement, catastrophe. Et donc, qui est dans la Bible d'ailleurs, à plusieurs endroits. Il y a eu la Shoah, et il y a eu donc, de ce fait, une hostilité terrible. Mais les intellectuels et français, l'État français, étaient assez dans, de façon générale, assez portés vers l'antisémitisme. Et on peut citer peut-être un auteur célèbre du XXe siècle, Céline par exemple, qui vraiment a eu des déclarations et des écrits terribles sur Israël. Il ne s'est pas gêné de dire « J'aime Hitler, j'aime ce qu'il fait, j'aime son racisme. » Voilà, le grand sélisme. Voilà, c'est, au moins, ça avait la chose, ça méritait d'être clair. Alors, tout au long de l'Ancien Testament, vous voyez comment les Juifs étaient déjà attaqués. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, qu'est-ce que vous découvrez dans l'histoire d'Esther? L'ennemi qui veut, qui a des propos terribles, il dit, voilà, il faut, il parle contre ce peuple, et le roi dit, ben voilà, il faut le détruire, et ben faites, voilà, le feu vert est donné pour détruire le peuple d'Israël. Hein. Vous vous souvenez de cette histoire avec Naaman, hein, avec Mardoché et Aman, ce terrible conseiller qui voulait détruire. Que s'est-il passé quand les Juifs sont arrivés à Babylone? Est-ce que vous vous souvenez? Avec Daniel et ses amis. Une forme aussi d'antisémitisme qui est arrivée là. Hein. Pardon? Les débaptisés, tu as dit? Changer de nom. Voilà, changer de nom. Voilà. On a voulu effacer leur identité. On a changé leur nom. Et les noms qu'on leur a attribués, c'était des noms dans lesquels il y avait des dieux païens, quoi. Hein. Donc on a changé leur nom à ces personnes-là. Et donc, évidemment, ça a été là aussi une démarche pour effacer l'identité. Donc ceci est arrivé. Bien sûr, toute l'histoire de l'Ancien Testament, il y avait une haine permanente. Hein. Après, il y a eu dans l'histoire à partir des Romains une série d'événements. Alors, j'ai une longue liste de prises de position des papes, des souverains, et c'était systématique. Hein. Il y a eu, bien sûr, encore avec les Romains, dans les années 130, donc l'empereur a écrasé Jérusalem, a changé le nom de Jérusalem, et on a essayé de faire disparaître même l'identité d'Israël. Et c'est assez... Cet acharnement, pour moi, montre bien que ce que Dieu avait dit dans Deutéronome est vrai. Et à plusieurs passages dans Deutéronome, il est parlé justement de ce temps de malédiction et de difficulté parmi les nations. Alors est quelque chose d'important parce que ça montre combien Dieu savait ce qui allait se passer, hein, bien sûr. Alors après, une question a été posée une fois par quelqu'un qui aime parler d'Israël, mais pourquoi Pourquoi le premier exil en Égypte? Vous savez qu'il a été provoqué par la famine. Hein, et donc, en Égypte, ils sont restés. Alors, il y a un passage que je voudrais retrouver concernant ce que Dieu avait dit à Abraham. Une confirmation. Voilà, Genèse 15, verset 13. Regardez Genèse 15, verset 13. Quelqu'un veut le lire ?
L'Éternel dit à Abraham : Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans.
Voilà. Et on va lire peut-être jusqu'au verset 16. Merci.
Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble.
Voilà. Alors, les Amoréens étaient les habitants du pays promis avec les Cananéens. Ils étaient très proches. Hein. Et les Amoréens étaient un peuple aux coutumes vraiment barbares. Ils avaient le dieu Moloch. Hein. C'était un homme avec une tête de bœuf, hein, et des bras qui accueillaient les enfants et qui étaient brûlés vivants. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et donc, c'était des coutumes terribles. Et la Bible dit ici, tu seras étranger dans un pays qui n'est pas vous, et donc vous serez asservi. Vous serez asservi pendant 400 ans. Alors, ce premier exil ne correspond pas aux avertissements que Dieu va donner à Moïse dans Deutéronome. Il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu d'idolâtrie de la part d'Israël encore. Il n'y a pas eu les autres exils, on comprend. Mais celui-là. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui peut nous aider à comprendre? Ce qui peut nous aider, c'est ce petit verset qui est un principe biblique qui aide à comprendre beaucoup d'autres choses dans la prophétie. Le péché de ces peuples n'est pas à son comble. Donc c'est vrai que là, Israël reste 400 ans dans un endroit, ils vont partir vers le pays promis. Et Dieu va se servir d'Israël pour juger les Amoréens, les Cananéens. Ce qui sera aussi ce que Dieu fera sur Israël quand eux-mêmes imiteront ces nations. Donc ce n'est pas là encore deux poids, deux mesures. Nous avons vu la dernière fois que Dieu aime tous les peuples et que Dieu voudrait parler. Alors nous avons vu aussi que quand Israël est sorti d'Égypte, tout le monde l'a su. Les pays l'ont su. Il y avait un retentissement de ce qui s'est passé en Égypte. Et la Bible dit ici, le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que Dieu va attendre le plus longtemps possible avant de juger. Et c'est un principe, et il faut mettre tout ça simultanément ensemble. C'est un principe qui est aussi valable aujourd'hui et qui le sera. Mais l'attente de Dieu et la patience de Dieu envers les païens et les gens qui offensent Dieu est aussi en même temps un temps de souffrance et de gémissement pour le peuple de Dieu. et nous portons, nous participons à la patience de Dieu par le fardeau d'une certaine insatisfaction. Je m'explique. J'ai eu l'occasion de faire des conférences sur le retour de Christ et je me souviens, dans le nord de la France, nous avions beaucoup de monde qui venait à ces conférences et on a demandé aux gens de lever la main. Qui veut que le Seigneur revienne cette année? Alors beaucoup levaient la main. Et puis nous avons refait la même conférence 10 ans plus tard, au même endroit. Et il y avait encore autant de monde. Et nous avons voulu reposer la question, qui est prêt à partir? Qui est prêt à rencontrer le Seigneur? Alors, beaucoup ont levé la main, mais qui a accepté le Seigneur dans ces derniers 10 ans? Et beaucoup ont levé la main aussi. Et puis nous nous sommes tournés vers ceux qui étaient là 10 ans avant. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces 10 ans? Eh bien, vous avez continué, j'en ai parlé dimanche un peu, nous sommes avec la création, nous gémissons, nous soupirons, nous attendons. Et nous sommes, oui, nous devons persévérer et attendre la réalisation du salut. Mais la réalisation du salut, cette attente est aussi l'expression de la patience de Dieu avec les nouveaux Amoréens. Parce que Dieu veut que le plus grand nombre se convertisse. Alors c'est pour cela qu'il est, il est difficile de dire, mais c'est quand la fin des temps? Alors ça dépend comment vous posez la question et pourquoi vous la posez. Si vous la posez parce que vous en avez marre, on peut comprendre. Il nous tarde d'être dans un autre monde avec d'autres règles et d'autres principes. Et on ne va pas relire Romains 8, mais regardez chaque détail. Romains 8 nous explique bien, nous souffrons, nous gémissons avec la création. Parce que nous attendons justement l'expression de tout le salut. Vous voyez? Et aujourd'hui, alors on n'est pas esclave en Égypte, mais on est dans le monde, nous vivons avec le monde et nous attendons. Et le peuple de Dieu avait commencé comme cela. Et c'est un principe aussi qui se réalisera. La Bible parle dans Romains 8, quand même, de, je crois, des douleurs de l'enfantement. Voilà, il y a ces douleurs-là. Et les événements que le Seigneur a donnés dans Luc 21, Matthieu 24 ou Marc 13 sont les expressions des douleurs qu'a connues, que connaît Israël, que connaît aussi l'Église de Dieu, en attendant que le maximum de gens soient sauvés. Et depuis 2000 ans, c'est vrai, ce peuple souffre particulièrement, mais la réalisation messianique des choses ne peut pas se passer sans passer par ce temps de douleur. Alors, est-ce que c'est assez clair? C'est un principe biblique très important. Parce qu'avec la patience de Dieu, soit on dit, ben, voilà, bon, ben, Dieu est, il est lent, il a oublié, bon, les choses sont toujours pareilles. Hein, mais en fait, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là?
Ça me montre aussi l'amour de Dieu, parce que ça voudrait dire que, en fait, si je demande que le Seigneur revienne parce que j'en ai marre, c'est que quelque part je suis un peu égocentrique.
Oui, enfin, je me suis exprimé comme ça, c'est un petit peu caricatural. Hein.
Oui, je veux dire que je dois aussi considérer que l'autre a aussi besoin d'être sauvé.
Oui, bien sûr.
Je dois manifester une certaine patience aussi pour
tout
que
à fait.
L'autre puisse entrer.
Exactement, oui, il faut être patient.
Mais si je ne regarde que moi-même, il faut que le Seigneur revienne. Mais si je regarde aussi les autres, je dis au Seigneur, use de patience envers eux. Donc ça veut dire, ne reviens pas tout de suite.
Voilà. C'est vrai. Et Paul dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai envie d'être avec le Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, je suis prêt à rester. Oui,
Charles. Il dit aussi qu'il faut aussi que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les...
Tout à fait. Alors, ça, oui, c'est vrai. C'est une des choses qui est donnée dans le descriptif de Jésus, hein, dans ses speeches prophétiques. Hein. Alors, une autre remarque, c'est bon? Alors, donc, nous voyons que le Seigneur a donné un panorama très douloureux, hein, dans Matthieu 24 ou Luc 21, voilà, il y aura beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs. Je vous passe même la vision. Daniel a eu une vision des nations et de la fin des nations. Parce que l'idée du Seigneur, c'est qu'à un moment donné, la patience de Dieu arrivera à son terme. Et quand le Seigneur reviendra juger les nations, ce sera un temps absolument terrible. Et donc, ce jugement des nations est quelque chose qui va être absolument douloureux, difficile. Plusieurs textes, on va les voir, le montrent, dans Ésaïe notamment, et dans Ézéchiel, bien sûr. Et bien sûr, Daniel, lui, a eu aussi une vision des nations qui sont les unes après les autres, ont toujours été hostiles à Israël, hein, et ont vraiment fait des choses terribles. Et donc après, Daniel, à plusieurs reprises, il dit, quand il a compris le panorama de la vie, et vous savez que Nebuchadnezzar avait eu la vision d'une statue, il était la tête d'or, après il y avait la poitrine, donc l'empire suivant, les Mèdes et les Perses, après les Grecs, après les Romains, et la Bible dit qu'une petite pierre s'est détachée et a frappé les pieds de la statue. Tous les empires humains se sont écroulés et avec cette pierre, un nouveau royaume est arrivé. Et donc tout le monde s'accorde à dire que cette pierre, c'est vraiment Jésus-Christ qui a l'intention de frapper les nations à un moment donné. Mais ces nations seront... Ça, c'est un... On pourrait étudier les différents empires et cette vision, peut-être on le fera, on prendra le temps de le faire. C'est, pour moi, j'ai commencé par cela quand j'ai étudié la prophétie. Bon, il y a les Babylone, et puis il y a le quatrième empire, c'est l'empire romain. Alors, il s'est divisé en deux, il y a les deux jambes, ça va jusqu'au pied, il n'y a pas d'autre empire désigné. Et au fond, ce que la Bible dit, en gros, elle résume toute l'histoire des nations depuis Babylone jusqu'à la fin du temps des nations. Et Jésus-Christ reviendra et établira son règne et toutes les nations s'écrouleront. Et la Bible va même jusqu'à dire que ces nations iront après reconnaître Jésus à Jérusalem et viendront chaque année l'adorer. Donc ça va aller très loin. Donc c'est quelque chose. Ça, c'est les perspectives de la Bible. Mais ce qui m'interpelle, c'est que quand Daniel a eu ses visions, la Bible dit qu'il changea de couleur, il trembla et il est tombé malade. Autrement dit, celui qui commence à réfléchir sur la prophétie et regarde assez précisément ce qui va se passer, mais c'est presque insupportable. Il va y avoir beaucoup... Ça va être terrible. C'est assez terrible et douloureux. Et les gens qui attendent le Seigneur avec légèreté ou... Parce qu'il y a ceux qui sont impatients, mais il y a ceux aussi qui prennent la prophétie vraiment d'une façon assez... légère et cavalière presque, mais il ne regarde pas tout ce qui est contenu dans ces textes. Mais ces textes sont assez terribles. Alors, pour en revenir à l'antisémitisme, donc il y a cette constance, et même quand le peuple a été dispersé, eh bien, les choses ne se sont pas arrangées, siècle après siècle. Il y a toujours eu, même les docteurs de l'Église, on peut parler d'Augustin, qui a eu un traité qui s'appelle « Contre les Juifs », pour être plus clair, et d'autres, qui ont pris une position assez radicale. Israël a tué Jésus-Christ, donc Israël mérite largement tout ce qui lui arrive. Alors, dans un sens, jusqu'à un certain point, c'est vrai, l'Évangile ne dit-il pas que, quand les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Mais l'Église est allée beaucoup plus loin, elle a déclaré que finalement, ben, nous sommes le peuple de Dieu, point à la ligne. Et donc, il n'y a rien à ajouter. Et Israël ne mérite plus d'exister. Et d'ailleurs, des croisades ont été faites pour justement aussi en profiter, pour récupérer les lieux saints, hein, mais quelles que soient les personnes qui les occupent. Hein. Et donc, l'Église a eu une position, ce qu'on appelle la doctrine du remplacement. On remplace, on devient le peuple de Dieu. Mais en devenant le peuple de Dieu, l'Église s'est profondément trompée parce qu'elle est devenue un État. Je parle de l'Église catholique officielle. La chrétienté est devenue un État. Cela est arrivé dans les années 300 quand Constantin s'est converti. Et donc son royaume est devenu le royaume de Dieu. Et à partir de là, tout a été faussé. La vocation de l'Église est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Elle n'a pas la même vocation qu'un peuple avec une terre. Donc, l'Église remplaçant Israël est un État, elle ordonne des rois. Hein, quand il y a la cérémonie, il y en a eu pas mal à Reims, le roi, on lui versait de l'huile sur la tête, comme on le faisait pour choisir les prophètes autrefois. Quand on choisissait un prophète, un roi, eh bien, on versait de l'huile qui était une onction, qui était le signe, il est choisi. Donc, il est choisi, il est oint. Et oint, en hébreu, c'est Messie, et en grec, c'est Christ. Mais les rois de France qui ont été choisis par l'Église se sont appropriés des choses de l'Ancien Testament qui ne les regardent absolument pas. Et ça a déformé le christianisme à un point inimaginable. Alors le roi devenu très chrétien avait le pouvoir de guérir les gens, bref, il était au-dessus de... Voilà. Mais le roi devenu très chrétien était donc au service de l'Église. Et l'Église, elle, utilisait l'armée du roi pour faire la discipline. C'est le luxe absolu. Vous vous rendez compte, si des gens n'étaient pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on va vous envoyer l'armée. Et donc, le roi était, voilà, de concert avec l'Église, d'où les fameuses dragonnades et des choses horribles qui se sont passées en France auprès des chrétiens, parce que l'Église a donné la possibilité de discipline au pouvoir séculier. Et c'est ainsi que, malheureusement, l'Église a supplanté Israël. Et de toute façon, même quand Israël est né, on en parlera la semaine prochaine, quand Israël est né, donnerai d'autres détails à ce sujet, eh bien l'Église a bien dit officiellement, mais Israël appartient à l'Église. Vous n'avez rien à faire à Jérusalem ni en Israël. Alors que toutes les promesses d'un retour définitif étaient là. Non. Alors, vous avez je suis à, il y a une autre, un autre verset important dans Luc 21. Dieu, quand Jésus-Christ s'adresse sur toutes ces choses, on va regarder un instant Luc 21. Quand Jésus-Christ s'adresse à, aux disciples, alors il est parlé lorsque vous verrez Jérusalem, verset 20, investi par les armées, sachez que sa désolation est proche. Après, bien sûr, évidemment, il décrit tous ceux de la Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il arrive un moment où les nations n'auront plus l'ascendance sur Israël. Alors après, il y a eu les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu toutes sortes de d'invasions, hein. Les Arabes, les Turcs, les Anglais. Et chose incroyable, au XXe siècle, Israël retrouve sa terre. En 1967, Israël retrouve la vieille ville de Jérusalem. Il faut savoir que la vieille ville de Jérusalem, Jérusalem, au moment du partage, on le verra plus en détail la semaine prochaine, était... les nations avaient fait une carte du partage, mais Jérusalem n'appartenait ni aux Juifs ni aux Arabes, c'était international. En 48, quand Israël naît, les Arabes attaquent et prennent Jérusalem. Jusqu'en 67. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs les nations ne réclament pas la Jordanie, Jérusalem, hein, mais il faudra la guerre de 67 pour que Israël arrive jusqu'à la vieille ville et trouve le mur des lamentations. Donc, la Bible dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et à partir de quand peut-on imaginer que le temps des nations est terminé? Quand, d'après vous, Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations? Alors il y a le retour de Christ, oui, le retour de Christ, peut-être ça va aller jusque-là. En tout cas, pour certains, alors j'ai cherché à savoir ce que ceux qui prêchent sur Israël disent. Certains disent, mais depuis 48, c'est plus foulé aux pieds. D'autres disent depuis 67. Moi je pense que tant que le monde du temple reste interdit aux Juifs, pratiquement, ben, ce lieu est foulé aux pieds par les nations. Parce que, vraiment, il est interdit à un Juif de prier sur le mont du Temple. Donc, et il y a un député, alors pour lui, c'est la catastrophe, mais souvent, à la Knesset, il cite la Bible en disant, mais le Temple est une maison de prière pour tous les peuples. Alors c'est un comble, c'est pour tous les peuples sauf nous. Il comprend pas. Alors il y a, vous savez que pour un juif, pour aller sur le mont du temple, ça se fait en principe le matin ou en début d'après-midi quand il n'y a personne, pendant une heure, par petits groupes de pas plus de 9, parce que 10 c'est pour les juifs, c'est autre chose, c'est trop grand, donc c'est un petit groupe. Alors évidemment, ils peuvent visiter. Et les soldats israéliens, pour pas qu'il y ait de vagues, regardent les lèvres de tout le monde pour être sûr qu'ils ne les bougent pas, donc ils ne sont pas en train de prier. Donc voilà la situation d'aujourd'hui. Hein. Donc Jérusalem est encore assez fortement foulée aux pieds. Mais cela peut changer. Si dans le futur, l'Antichrist doit profaner un temple, il faudra qu'il y ait un temple qui soit reconstruit. Donc là, il arrivera un moment où, quand l'actualité nous montrera que vraiment les Juifs veulent récupérer le temple et faire un temple, alors là, on peut dire, on sent la fin approcher, les choses vont s'accélérer. Et donc, Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Mais la façon dont dont Israël subit cela est quelque chose d'incroyable, parce que Israël, vous savez qu'en Israël, même dans le gouvernement, il y a des Arabes qui appartiennent à des associations qui ne reconnaissent pas Israël. Dans le gouvernement, je ne parle même pas du Parlement. Et Israël a toujours voulu la pluralité du culte. L'idée même qu'un juif puisse prier sur le mont du temple, mais ça crée une hystérie chez les musulmans absolument disproportionnée. Et non seulement à Jérusalem, mais même dans à Hébron, au tombeau de Joseph, partout où il y a quelque chose qui appartient à Israël, c'est un lieu terrible de tension. Alors, au cours des siècles, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. Nous avons parlé de l'empereur Adrien, qui avait vraiment essayé de faire disparaître Israël et Jérusalem. Et il y a maintenant, dans le musée d'Israël, on a retrouvé un buste d'Adrien de son époque, des années 130. Et chaque année, il y a un archéologue qui venait au musée d'Israël. Il faisait ça, cette cérémonie, chaque année. Il approchait du buste et il disait, ben voilà, ah ah, Adrien, tu voulais rayer de la carte Jérusalem. Mais aujourd'hui, où es-tu? Et où sommes-nous? Et il parlait au buste pendant quelques minutes pour dire, ben voilà, il y a Jérusalem, il y a Israël, et toi, alors, voilà, donc il faisait sa cérémonie chaque année, depuis qu'on avait trouvé ce buste d'Adrien. Après, donc, il y a eu l'Église qui a, dans sa doctrine, à cause de son enseignement, a participé à l'antisémitisme. Ça a duré tout, siècle après siècle, non seulement en France, en Espagne, des moments terribles avec Anne de Castille dans les années 1490. Et puis, tout le long de l'histoire. Et après, nous savons qu'il y a eu les fameux pogroms en Russie. C'est de là qu'est né les protocoles, vous avez peut-être entendu parler des protocoles des sages de Sion. C'est un document qui a été fait dans les années 1900, mais c'est un truc tordu comme c'est pas possible. C'est un protocole. Donc, un des membres de la Russie, du gouvernement russe, pour manipuler et se protéger des juifs, parce qu'il n'aimait pas du tout les juifs, a créé un document en disant, voilà, nous, les Juifs, nous nous sommes réunis, nous avons décidé de dominer le monde, d'écraser les gens, et voilà une série de protocoles que nous mettons en place. Et alors, les pires choses sont dans ces protocoles. Et c'est un document que lui a fait pour que les Russes se tournent contre les Juifs. Alors, au début, ça ne marchait pas trop, mais petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Après, tout le monde a reconnu la manipulation de ce propagandiste russe. Hein. Mais Hitler s'en est servi. Hein. Il a été réédité par Henry Ford, celui qui a fait les automobiles en Amérique. Henry Ford était hyper antisémite. Il a été même décoré par les nazis. Hein. Et donc, il a rétabli les protocoles des sages de Sion. Nous avons eu aussi l'affaire Dreyfus en France, donc ce pauvre soldat qui avait des supérieurs vraiment antisémites, et il a dû connaître le bagne et tout, simplement parce qu'il était juif. Alors au milieu de cela, il y a un homme qui s'appelle Théodore Herzl, qui était un journaliste, et qui a écrit « L'état des juifs ». Et bien sûr, il faut en dire un mot, parce que là nous parlons du sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Est-ce que vous savez, parce qu'aujourd'hui même l'État commence à se dire, mais est-ce qu'être anti-sioniste, pour beaucoup, c'est devenir antisémite? Alors je vais vous poser la question, qu'est-ce que le sionisme? Alors Sion, ben voilà. Donc c'est pas de la politique. Sion, ça, c'est quoi dans la Bible? Voilà, c'est une colline d'Israël. Et par extension, c'est devenu, pour désigner Jérusalem, pour désigner Israël, tout simplement. Et Sion, c'est juste une partie de Jérusalem, hein, au sud du Temple. Alors, il y a eu ce journaliste qui était hyper choqué de l'affaire Dreyfus. Et donc, tout le sionisme part de lui. Il est mort très jeune, à 40 ans, même pas, d'une crise cardiaque. Mais il a écrit un livre, L'État des Juifs, et tout est parti de lui pour... Et il a dit, je pense que... Donc c'était dans les années 1900. Je pense que d'ici 50 ans, il y aura un État. Alors, ce livre, il n'est pas épais. Le voilà. Voilà, Théodore Herzl, il a fait ce livre, il est pas du tout épais, hein, et tout le sionisme, c'est ça. Alors, il est absolument remarquable de lire quelques lignes, et voilà ce qu'il dit. « Partout, nous avons loyalement tenté de nous fondre dans les communautés nationales qui nous entouraient, et de ne conserver que la foi de nos pères. » On ne nous le permet pas. Donc là, il faut s'imaginer, avec l'affaire Dreyfus, nous arrivons au début du XXe siècle. C'est en vain que nous sommes de bons patriotes, voire même dans certains pays des patriotes exacerbés. C'est en vain que nous consentons les mêmes sacrifices en argent, en sang, que nos concitoyens. C'est en vain que nous nous efforçons de rehausser la gloire de nos patries dans les arts, la science, ou encore d'augmenter leur richesse par le commerce et les échanges. Ah oui, au fait, vous savez pourquoi les Juifs ont la réputation avec l'argent?
Oui.
Pourquoi?
Parce que la banque, l'Église catholique, l'argent était tabou, donc c'était les Israélites qui tenaient les cordons de la bourse.
Oui, oui.
C'est très schématique. Hein,
mais... Oui, c'est-à-dire ça vient du fait que les théologiens catholiques ne voulait pas que les catholiques soient usuriers. Parce que le temps, c'est l'éternité, n'appartient qu'à Dieu. Donc, c'était les juifs qui se... Alors, comme ils n'avaient pas droit à pas mal de fonctions, une des rares fonctions qu'on leur laissait, c'était d'être usurier. Alors, usurier, c'est, au fond, c'est être banquier avant l'heure. Et d'où, par voie de conséquence, un profil hostile viendra, parce que... Parfois, on n'aime pas trop son banquier. Mais on peut imaginer autrefois, quand les gens n'arrivaient pas à payer, etc., ça devenait un point de litige, en fait. Et donc, voilà. Mais il s'était développé. Voilà. Et alors, lui, il dit, voilà, nous avons augmenté les richesses par le commerce et les échanges. Dans les pays où nous vivons depuis des siècles, nous sommes considérés comme des étrangers, souvent même par ceux dont les ancêtres n'y étaient pas, établis alors que nos pères y étaient déjà. Et donc, après, alors, il continue. Dans les circonstances présentes, et sans doute dans un avenir prévisible, la force précède le droit. C'est donc en vain que partout, nous sommes de braves patriotes, comme l'avaient été les Huguenots, que l'on obligea à émigrer. Donc, Théodore Herzl connaît l'histoire des croyants, et dit, ben, les Huguenots, ils ont dû partir. la France, dans les années 1685, quand l'édit de Nantes a été révoqué, eh ben, les Huguenots ont fait la richesse d'autres pays. Et les pionniers aux États-Unis étaient aussi des chrétiens. Donc ils ont émigré, ils sont partis. Et Herzl pose une question toute simple, ça fait 2000 ans que vous ne supportez pas. Chaque fois qu'il y a un truc, quand il y a eu la peste dans les années 1200, vous avez dit que c'est de notre faute. Bref, chaque fois qu'il y avait un malheur, c'est de notre faute. Toutes les raisons possibles et malhonnêtes sont là pour nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est assez intéressant de lire ce livre. Les Huguenots, nous sommes de braves patriotes parce que les Huguenots aussi l'étaient. C'est parce que les chrétiens étaient assez respectueux de l'État, justement, et payaient les impôts et faisaient vivre le pays. Ah, si l'on pouvait nous laisser vivre en paix. Alors voilà sa question. Après, il ajoute, qui pourrait nier la détresse des Juifs ? Partout où ils vivent en nombre substantiel, ils sont plus ou moins persécutés. Dans la pratique, l'égalité des droits ne joue pas pour eux, même lorsque celle-ci a été légalement proclamée. Ils sont exclus des positions intermédiaires dans l'armée, dans la fonction publique ou privée. On essaie même de les rejeter du commerce. N'achetez pas chez les Juifs. Donc ça, c'est le constat qu'il fait, lui, à son époque. Et donc, il va y avoir donc une pensée qui se développe. Eh bien, il va falloir qu'on trouve un endroit pour vivre tranquille. Et au fond, l'antisémitisme et la haine des Juifs va être un ressort qui va amener l'existence d'Israël. Alors, mais le fondement du sionisme, c'est pas une invasion militaire barbare, agressive. Les Juifs de cette époque-là, au début du XXe siècle, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il ajoute ceci, « Pourtant, il serait peut-être possible que nous nous dissolvions dans les peuples qui nous entourent sans laisser de traces. Mais si partout on nous laissait vivre en paix, pour au moins deux générations. Mais on ne nous laisse pas vivre en paix. Après une courte période de tolérance, l'hostilité qui nous poursuit finit toujours par se réveiller. Notre bien-être semble avoir quelque chose de provoquant, tant le monde s'est habitué durant des siècles à nous considérer comme les plus méprisables parmi les plus pauvres. D'ailleurs, que ce soit par ignorance ou par étroitesse d'esprit, on ne remarque pas que notre bien-être nous affaiblit comme juifs. Et tant à nous faire perdre nos particularismes, seule l'oppression nous rejette vers nos anciennes origines. Seule la haine environnante fait de nous des étrangers. » Autrement dit, Herzl dit ceci, mais si on nous avait oubliés, il n'y aurait plus de problème juif. Et beaucoup de juifs demandaient simplement à s'assimiler et à disparaître dans les nations. Ainsi que nous le voulions ou non, nous sommes et nous restons un groupe historique reconnaissable à ses caractéristiques homogènes. Nous sommes un peuple et c'est l'ennemi qui nous y contraint malgré nous. Parce que beaucoup de juifs, même au XXe siècle, n'avaient pas du tout envie de déménager ou de partir vers Israël ou de fonder un pays. Le sionisme n'était pas une vague, un tsunami de tous les juifs. C'est pas du tout ça. C'est notre détresse que c'est dans notre détresse que nous nous assemblons et que soudain nous découvrons notre force. Oui, nous avons la force de créer un État, un véritable État modèle. Nous disposons de tous les moyens matériels et humains nécessaires à cette tâche. Alors, arrivé à cette constatation, on en arrive à quelque chose d'assez savoureux. Mais alors, où allons-nous aller ? On ne sait pas, faut-il donner la préférence à la Palestine ou à l'Argentine ? Et le fondateur du sionisme était prêt à partir, fonder un État en Argentine. Il cherchait un endroit dans le monde, voilà, vous nous laissez, on s'occupe de nous et vous nous oubliez. puisqu'au niveau individuel, on ne peut pas être oublié, on crée un État et vous nous oubliez. Donc pourquoi l'Argentine ? Oh ben, alors il voulait créer une petite société, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, une société qui gère tout ça. La société décidera et fera ses constatations. L'Argentine est l'un des pays les plus riches du monde, la superficie est énorme, il y a une population faible, le climat est modéré, donc elle aurait son plus grand intérêt à nous céder un morceau de son territoire. Voilà les bases du sionisme. Hein, c'est quand même assez... Voilà. Et bien sûr, il y a aussi la Palestine. C'est vrai que ça reste notre patrie historique inoubliable. Son seul nom constituerait pour notre peuple un cri de ralliement d'une extraordinaire puissance. Vous voyez ? Et c'est ainsi que va naître, à un moment donné, il va falloir qu'on se protège. Et donc, cela va rejoindre toutes les promesses bibliques. Je vous ramènerai dans votre pays. Alors, regardons maintenant le repas. Je voudrais vous montrer quand même des passages dans Ésaïe. On va commencer par Zacharie 14. Zacharie 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors dans le futur, au moment qui précède le retour de Christ, ce qui va probablement se passer, c'est que progressivement, les Juifs, et il y a beaucoup, de plus en plus de pression dans ce sens, vont vouloir récupérer leur lieu d'adoration, le mont du Temple. Un temple sera reconstruit. L'Église, à un moment donné, sera enlevée. L'homme du péché, l'impie, va séduire toutes les nations, va apporter beaucoup de bien-être, mais avec des exigences incroyables, avec l'adoration envers sa personne. Il va faire un traité d'alliance avec Israël, mais à un moment donné, il va rompre cette alliance et va vouloir faire ce que les prédécesseurs ont fait, tout envoyer en éclats, profaner les lieux, etc. Et donc, il entraînera à ce moment-là toutes les nations à attaquer Israël pour en finir une fois pour toutes. Ce sera la fameuse guerre d'Armageddon. Et là, il est dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Et l'Éternel paraîtra, il combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Et ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Alors, le verset 9 nous dit, en ce moment-là, parce que bon, il faudrait tout lire, tout est intéressant, l'Éternel sera roi de toute la terre. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Donc ce que nous comprenons, c'est que il y aura un point culminant où les nations attaqueront Jérusalem. D'ailleurs, au chapitre 12, nous voyons « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples. » En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Hein? Et donc, les nations autour, hein, ils devront, fin du verset 6, ils déverront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Donc, le point culminant, le point de rendez-vous de Dieu par rapport aux nations, c'est Jérusalem. Donc il y a un... j'étais étonné, là aujourd'hui j'ai entendu un des candidats, je ne sais pas s'il est candidat de LR, Ciotti, monsieur Ciotti, Éric Ciotti, ouais, il a déclaré, moi je veux absolument que la France reconnaisse que que Jérusalem est la capitale d'Israël. Alors, il va être bien, bien seul, le pauvre. Mais il a fait cette déclaration dans son programme de candidature. Ouais, mais ça deviendra, Jérusalem l'a toujours été et le sera encore, hein, comme le pays d'Israël reste, voilà, on ne le reconnaît pas, on ne veut pas le reconnaître. En Égypte, il y a eu un tollé parce qu'il y a eu une série une série télévisée, comme on fait des séries, où on montrait que on va d'ici 100 ans, on va reconquérir toute la Palestine et on va demander aux Juifs de retourner dans tous les pays d'où ils sont venus. Et pourtant, l'Égypte a fait la paix avec Israël. Mais l'idée générale, c'est qu'on ne veut pas reconnaître ce pays, on ne veut pas. Voilà. Mais le plan de Dieu avance et cet antisémitisme que nous trouvons dans la parole de Dieu, depuis ses origines, est quelque chose qui a été constant, qui est là, qui aura un point d'orgue assez douloureux quand même, hein, assez terrible, parce qu'Israël n'a pas fini, hein, et arrivera à vivre aussi encore des temps particuliers. Hein. Est-ce qu'il y a une petite remarque ?
Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les fondements du sionisme que tu as lu, c'est plutôt orienté politique, hein, et ça n'a pas beaucoup de références par rapport à la parole de Dieu.
Il y en a, mais j'ai pas pu tout lire.
Les fondateurs du sionisme, c'était les initiateurs, j'ai l'impression qu'ils étaient plus politiques, l'État lui-même, plutôt que. Oui, ces choses-là étaient prévues par la Bible, mais il y a un moyen, il faut se repentir, etc., appel à la repentance, etc. C'était plus orienté politique que religieux, finalement.
Oui, parce que c'était...
Même l'Argentine, il ne pouvait pas aller en Argentine. Oui. C'était contre le plan de Dieu.
Non, mais c'était une réponse, je dirais, terre-à-terre, pour un problème terre-à-terre. On nous persécute, où on se met.
Regardons ce que dit la parole de Dieu.
Oui, d'accord.
Mais... Pourquoi ils n'ont pas eu ce réflexe ?
Mais moi, je pense que Dieu s'est servi parce qu'il faut bien que, si Dieu est souverain dans l'histoire du monde, il faut bien qu'il y ait des mouvements de pensée. On était au début du XXe siècle, on était dans un État très, très laïque, très, très, très socialiste en France. Et moi, je pense que Dieu s'est servi de ses idées politiques pour permettre ce retour. Et que c'était un travail qu'il fallait être. Bon, il y a eu la foi, mais il fallait que les politiques s'engagent sans forcément se rendre compte que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Donc, quelque part, il fallait qu'il y ait un point de départ.
C'est vrai qu'ils accomplissent la volonté de Dieu, parfois sans s'en rendre compte. Ouais. Ça, c'est certain. Hein.
Il fallait changer les mentalités pour qu'il y ait cette.
À l'image de l'État actuel d'Israël. Hein. Parce qu'en fait, il y a une partie religieuse, il y a une partie complètement athée. Hein. C'est-à-dire qui...
On estime le nombre des athées en Israël, quand même, c'est moins de 50%. C'est 40 et quelques pourcents. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 50% de croyants.
Mais croyants, vraiment...
Alors j'ai reçu un magazine, là, cette semaine, qui montre le tableau du profil de la population qui va bientôt atteindre 10 millions d'habitants. Et il y a les ultra-orthodoxes, il y a les orthodoxes, il y a les croyants modérés, ceux qui sont complètement athées, c'est 40 et quelques pourcents.
Mais tu as l'islam, si tu as des musulmans.
Ah non, mais oui, là on parle de ceux qui ont la nationalité des juifs en Israël. En Israël, il y a 75% de juifs et 20-25% d'arabes israéliens. Voilà. Alors, les ultra-orthodoxes, ultra, ils vont même jusqu'à nier l'État d'Israël, parce que justement, c'est pas selon la parole. Alors, mais les choses sont en crescendo. À un moment donné, les Juifs seront aussi encore, passeront des moments terribles et vont se tourner vers Dieu, mais ils n'ont pas un cœur disposé à cela. Ça, c'est sûr. Mais ce qui leur arrive et les progressions, quand même, voilà, c'est des routes qui se rejoignent avec la parole de Dieu aussi. Ben voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Là, je vous montrerai d'autres. J'ai pas eu le temps de vous montrer d'autres exemples du rejet de l'identité juive, hein, jusque dans des livres pour enfants, partout. Enfin, on verra ça la semaine prochaine avec la naissance d'Israël. Donc, on va peut-être terminer par la prière. Tu veux bien prier, Jean ? Merci.
Seigneur, Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir ouvert, Seigneur, les yeux aussi, pour que nous puissions voir que ton plan s'accomplit à la lettre. Que vraiment tout ce que ta parole a prédit s'accomplit à la lettre. Et que, Seigneur, toutes ces choses que nous vivons, toutes ces choses qui sont arrivées à ton peuple étaient prédites bien avant, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que cela aussi contribue à renforcer notre foi dans ta parole, Dieu. Et merci, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à venir et nous voulons, Seigneur, te dire, interviens auprès de ton peuple, interviens et permets, Seigneur, que le plus grand nombre puisse réfléchir et se tourner vers toi, Seigneur, avant que les jours mauvais n'arrivent, Seigneur, étends ta main sur Israël. Protège, relève, Seigneur, instruis, enlève ce voile qui empêche leurs yeux de pouvoir te voir. Oh oui, Seigneur, nous crions à toi, merci vraiment. Aussi de nous aider nous-mêmes à ne pas avoir des pensées vraiment qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Seigneur, tu vois combien à travers les siècles, c'est vrai, ton peuple, l'Église, Seigneur, a eu un comportement, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, nous crions à toi, donne-nous des cœurs attachés réellement à ta parole. Merci, Seigneur, nous attendons à toi et nous te disons, interviens, Seigneur, dans ce monde, c'est vrai qu'il va à la dérive, mais que nos cœurs soient attachés à ta parole. Merci de nous raccompagner et de continuer à parler à nos cœurs, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Et bien bon retour à chacun. Pour la petite histoire, Théodore Herzl, il n'imaginait pas que les Juifs puissent revivre. Alors il avait tout un plan pour que les gens communiquent entre eux, au nom de tous les pays, mais il n'avait pas imaginé que les Juifs allaient redevenir dans le monde vivant.